Chapitre 20 de la cinquième bataille Nirnaeth Arnoedian. Il est dit que Beren et Luthien retournèrent dans le nord de la terre du milieu et vécurent un temps ensemble comme de simples mortels, et ils reprirent leur forme au Doriath. Ceux qui les virent furent partagés entre joie et crainte, et Luthien se rendit à Menegroth et guérit Fingol de son hiver en le caressant de sa main. Mais Melian regarda dans les yeux de Luthien, et elle vit le destin qui y était inscrit et se détourna, car elle savait qu'une séparation au-delà des limites du monde s'était interposée entre elles, et aucun deuil ne fut jamais aussi lourd que celui de Melian la Maya à cet instant. Lors, Beren et Luthien partirent seuls, sans craindre la soif ni la faim, et ils franchirent le fleuve Gelion jusqu'en Osiriand, où ils vécurent à Tol Galen, l'île verte, au milieu de l'Adurant, jusqu'à ce qu'on n'entendît plus parler d'eux. Les Eldar nommèrent dès lors ce pays Dor Firniginar, le pays des morts qui vivent. Et là, naquit Dior Aranel le Beau, bientôt connu sous le nom de Dior Elukil, c'est-à-dire l'héritier de Fingol. Nul homme mortel ne s'adressa plus désormais à Beren, fils de Barahir, et nul ne vit Beren ou Luthien quitter ce monde, ni ne sut où reposer enfin leur corps. En ce temps-là, Maedros, fils de Fëanor, reprit courage, voyant que Morgoth n'était pas inexpugnable. Car les exploits de Beren et Luthien firent l'objet de nombreux chants partout en Beleriand. Mais Morgoth les détruirait tous, les uns après les autres, s'ils ne pouvaient s'unir une fois encore et reformer une ligue et un conseil commun. Et il mit sur pied une alliance pour relever le sort des Eldar, surnommée l'Union de Maedros. Or, le serment de Fëanor et les forfaits qu'il avait causés nuisirent au dessein de Maedros, et celui-ci reçut moins d'aide qu'il ne l'aurait dû. Ordreth refusait de marcher à l'instigation d'aucun des fils de Fëanor en raison des agissements de Celegorm et de Curufin. Et les elfes de Nargothrond croyaient encore pouvoir défendre leur forteresse secrète par la ruse et la dissimulation. De là ne vinrent qu'une poignée d'hommes, menés par Gwyndor, fils de Gilin, un fort vaillant prince. Et il partit en guerre contre la volonté d'Ordreth, car il pleurait encore la perte de son frère Gelmir dans la Dagor Bragolac. Ils revêtirent l'emblème de la maison de Fingolfin et marchèrent sous la bannière de Fingon, et ils ne revinrent jamais, hormis un seul. Le Doriath n'envoya que peu d'aide, car Maedros et ses frères, tenus par leur serment, avaient mandé à Fingol en termes hautains, rappelant leurs revendications et lui enjoignant de restituer le Silmaril sous peine d'être leur ennemi. Melian lui conseilla de le rendre, mais les mots des fils de Fëanor étaient pleins d'orgueil et de menaces, et Fingol ne put contenir sa colère en songeant aux souffrances de Luthien et au sang de Beren qui avait permis de recouvrer le joyau en dépit des machinations de Celegorm et de Curufin. Et chaque jour où il contemplait le Silmaril, s'aiguisait en lui un désir de le garder toujours, car tel était son pouvoir. Aussi renvoya-t-il les messagers avec mépris. Maedros ne fit aucune réponse, car il avait commencé à méditer l'alliance des elfes. Mais Celegorm et Curufin jurèrent ouvertement d'anéantir Fingol et son peuple entier s'il rentrait victorieux de la guerre et que le joyau ne leur était pas rendu de plein gré. Alors Fingol fortifia les marches de son royaume et il n'alla pas en guerre, ni personne au Doriath, sauf Mablung et Beleg, qui ne voulaient pas rester à l'écart de ses hauts faits. Fingol consentit à les laisser partir, à condition qu'ils ne servent pas les fils de Fëanor, et ils rejoignirent la bannière de Fingon. Mais Maedros reçut l'aide des Naogrim, qui envoyèrent des forces et de grandes réserves d'armes, et les forges de Nogrod et de Belégost fourmillaient d'activité. Et il rappela à lui chacun de ses frères et tous ceux qui voulaient bien les suivre. Et les hommes de Bor et d'Ulfang furent rassemblés et entraînés à la guerre. Et ils appelèrent leurs semblables de l'Est à venir grossir leur rang. Et à l'Ouest, Fingon, toujours ami avec Maedros, tint conseil avec Imring, tandis qu'au Ithlom, les Noldor et les hommes de la maison de Hador s'apprêtaient à la guerre. Dans la forêt de Blethil, Almir, seigneur du peuple de Haleth, rassembla ses hommes qui affûtèrent leurs haches. Mais Almir mourut avant le début des hostilités et son fils Haldir lui succéda. Et ces nouvelles parvinrent aussi à Gondolin, à Turgon, le roi caché. Mais Maedhros éprouva trop tôt ses forces, ses plans n'étant pas complètement mûrs. Et s'il parvint à chasser les orques de tout le nord du Beleriand, et même à libérer le Dorthonion pour quelque temps, Morgoth s'avisa de l'insurrection des Eldar et des amis des elfes, et il prit ses mesures. Il envoya parmi eux un grand nombre d'espions et d'artisans de trahison, ce qui, à présent, lui était d'autant plus facile que les hommes félons secrètement à sa solde étaient dans la confidence des fils de Fëanor. Enfin, Maedhros, ayant rassemblé toutes les forces dont il pouvait disposer chez les elfes, les hommes et les nains, résolut d'assaillir Angband par l'est et par l'ouest, et il entendait marcher toute bannière déployée à travers l'Anfaoglyph. Mais lorsqu'il aurait suscité la riposte des armées d'Angband, comme il l'espérait, Fingon descendrait des cols du Ithlom, et il pensait ainsi prendre les forces de Morgoth entre le marteau et l'enclume et les réduire en pièces. Le signal devait venir d'un grand fanal allumé au Dorthonion. Le jour prévu, à l'aube de la mi-été, les trompettes des Eldar saluèrent le lever du soleil, et l'étendard des fils de Fëanor se dressa du côté est, et celui de Fingon, grand roi des Noldor, du côté ouest. Lors Fingon regarda du haut des murailles d'Ethel Sirion, et son armée était rangée dans les vallées et les forêts à l'est des Ered Wethlin, bien cachée aux yeux de l'ennemi. Mais il la savait fort nombreuse, car tous les Noldor du Ithlom étaient assemblés là, avec des elfes du Falas, et la compagnie de Gwyndor de Nargothrond, et il avait le concours de nombreux hommes. Sur leur flanc droit se tenait l'armée du Dor Lomine, avec tout le courage de Húrin et War, son frère, et Haldir de Blethil s'était joint à eux avec de nombreux hommes des bois. Puis Fingon regarda vers le Thangorodrim, surmonté d'un nuage sombre et d'une colonne de fumée noire. Et il savait que la colère de Morgoth se ravivait et que leur défi était accepté. Un doute assombrit son cœur, et il regarda vers l'est dans l'espoir que sa vue elfique lui laissa entrevoir la poussière d'Anfaoglyph soulevée par les armées de Maedhros. Il ne savait pas que Maedhros avait vu son départ retardé par la ruse d'Uldor le maudit, qu'il avait trompé avec de fausses rumeurs d'un assaut venu d'Angband. Mais un cri monta à présent, qu'un vent du sud porta de vallée en vallée, et les elfes et les hommes s'exclamèrent d'étonnement et de joie. Car sans y être invité et contre toute attente, Turgon avait rompu l'isolement de Gondolin et venait avec une armée forte de 10 000, avec de brillantes armures, de longues épées et une forêt de lanciers. Et quand Fingon entendit au loin la grande trompe de son frère Turgon, l'ombre quitta son cœur et il reprit courage, criant « Utulie ninaure, Aya Eldalie ar Atanatari, Utulien aure. Le jour est venu. Voyez, gens des Eldar et pères des hommes, le jour est venu. » Et tous ceux qui entendirent l'écho de sa voix claire dans les collines répondirent en criant « Aota ilome, la nuit s'achève !» Or, Morgoth, informé des actions et des intentions de ses opposants, choisit son heure. Et sachant qu'il pouvait compter sur ses perfides espions pour retarder Maedhros et empêcher l'union de ses adversaires, il envoya une armée qui paraissait considérable, mais qui ne représentait qu'une partie de ce qu'il avait à disposition, vers le Ithlom. Et à cause de leurs habits ternes qui ne laissaient voir aucun métal nu, ils étaient déjà loin sur les sables d'Anfaoglyph quand on s'avisa de leur approche. Alors les cœurs des Noldor s'enflammèrent, et leurs capitaines voulurent écraser l'ennemi sur la plaine. Mais Húrin s'y opposa, et il leur dit de se méfier des stratagèmes de Morgoth, dont les forces étaient toujours plus grandes qu'il n'y paraissait, et les desseins autres que ce qu'il en laissait voir. Et bien que l'armée s'impatienta, parce que le signal de Maedhros ne venait point, Húrin les exhorta de même de l'attendre et de laisser l'assaut des orques se fracasser contre les collines. mais le capitaine des armées de Morgoth à l'ouest avait ordre de débusquer Fingon de ses retranchements des collines par tous les moyens possibles. Il marcha donc de l'avant, jusqu'à ce que le front de son armée fût massé devant les eaux du Sirion, des murs de la forteresse d'Eithel Sirion, jusqu'au confluent du Rivil, au marais de Selec. Et des avant-postes de Fingon, on voyait les yeux des ennemis. Mais son défi resta sans réponse, et les railleries des orques s'évanouirent devant la menace sourde et les murs silencieux des collines. Lors, le capitaine de Morgoth envoya des cavaliers munis d'un signe, invitant à des pourparlers, et ils s'arrêtèrent devant les premiers bastions de la Barad Eithel. Ils amenaient Gelmir, fils de Gilin, ce seigneur de Nargothrond, qu'ils avaient fait prisonnier dans la Bragolac, et ils lui avaient crevé les yeux. Or, les héros d'Angband présentèrent leur otage, criant «
Nous en avons bien d'autres à la maison, mais il faut vous hâter de les récupérer, car ils subiront tous le même sort quand nous rentrerons. »
Et ils tranchèrent les mains et les pieds de Gelmir, puis la tête, sous le regard des elfes, et le laissèrent. Par un hasard malencontreux, à cet endroit des avant-postes, se tenait Gwyndor de Nargothrond, le frère de Gelmir. Devenu fou furieux, il s'élança à cheval avec de nombreux autres cavaliers, et ils poursuivirent les héros et les massacrèrent, et ils enfoncèrent les rangs de l'armée. Et voyant cela, l'armée des Noldor s'enflamma tout entière, et Fingon coiffa son aume blanc et fit sonner les trompettes, et toute l'armée du Ithlom se déversa des collines en un soudain assaut. L'éclat des lames des Noldor sortant du fourreau jaillit comme un incendie dans un champ de roseaux. Et leur charge fut si rapide et d'une telle violence que les desseins de Morgoth faillirent être déjoués. L'armée qu'il avait envoyée à l'ouest fut balayée avant l'arrivée des renforts, et les bannières de Fingon traversèrent Anfauglith et se dressèrent devant les murs d'Angband. Gwyndor et les elfes de Nargothrond menaient la charge depuis le début, et même là, rien ne put les retenir. Ils enfoncèrent la porte extérieure et terrassèrent les gardes sur le seuil d'Angband même, et Morgoth trembla sur son trône souterrain en les entendant frapper à ses portes. Mais ils étaient pris au piège, et tous moururent là, sauf Gwyndor, qu'ils prirent vivant, car Fingon ne put leur venir en aide. Par de nombreuses portes dérobées autour du Thangorodrim, Morgoth avait fait sortir le gros de l'armée qu'il tenait en réserve, et Fingon fut repoussé des murs avec de lourdes pertes. Là, sur la plaine d'Anfauglith, au quatrième jour de la guerre, commencèrent les Nirnaeth Arnoediad, les larmes innombrables, car nul chant ni conte ne peut en rapporter toutes les souffrances. L'armée de Fingon battit en retraite sur les plaines de sable, et Haldir, seigneur des Haladin, tomba à l'arrière-garde, et avec lui la plupart des hommes de Brethil, qui ne retrouvèrent jamais leur forêt. Mais le cinquième jour, à la tombée de la nuit, les orques encerclèrent les troupes du Ithlom encore loin des Eredwethrin, et elles combattirent la nuit durant, serrées de plus en plus près. L'espoir surgit au matin lorsqu'on entendit les corps de Turgon marchant avec le gros de l'armée de Gondolin, car celle-ci était restée au sud afin de garder la passe du Sirion, et Turgon avait su retenir la plupart des siens lors de la charge intempestive. Il se hâta à présent au secours de son frère, et les Gondolindrim étaient forts et tout en armure de maille, et leurs rangs miroitaient au soleil comme une rivière d'acier. Or, la phalange de la garde royale enfonça les rangs des orques, et Turgon se tailla un chemin à l'épée jusqu'auprès de son frère. Et on dit que les retrouvailles de Turgon et Urin, lequel se tenait aux côtés de Fingon, furent joyeuses au milieu de la bataille. Alors l'espoir regagna le cœur des elfes. Et en cet instant même, à la troisième heure du jour, les trompettes de Maedros résonnèrent enfin dans l'est, et les étendards des fils de Fëanor assaillir l'ennemi sur ses arrières. D'aucuns ont dit que les Eldar eussent encore pu vaincre si tous leurs alliés avaient été loyaux, car les orques vacillèrent et ralentirent leur assaut, et déjà certains faisaient demi-tour pour fuir. Mais comme l'avant-garde de Maedros s'abattait sur les orques, Morgoth lâcha ses dernières forces, et Angband fut vidé. Il vint des loups, et des guerriers montés sur des loups. Et il vint des Balrogs et des dragons, et Glaurung, le père des dragons. Et désormais, la puissance et l'horreur de ce grand ver étaient plus que terribles. Elfes et hommes mouraient calcinés dans son souffle. Il se coula entre les armées de Maedros et de Fingon, et les sépara brutalement. Ni loup, ni Balrog, ni dragon n'eut toutefois permis à Morgoth d'arriver à ses fins sans la traîtrise des hommes. Et les intrigues d'Ulfang furent alors révélées au grand jour. Un grand nombre d'Orientais, le cœur rempli de mensonges et de peurs, firent demi-tour et prirent la fuite. Mais les fils d'Ulfang se rangèrent soudain du côté de Morgoth et s'abattirent sur les arrières des fils de Fëanor. Et dans la confusion engendrée, ils manquèrent d'atteindre l'étendard de Maedros. Ils ne purent récolter le tribut que Morgoth leur avait promis, car Maglor tua Uldor le Maudit, le chef des traîtres, et les fils de Bor tuèrent Ulfast et Ulvarth avant de périr eux-mêmes. Mais il arriva d'autres hommes mauvais, qu'Uldor avait fait venir et embusquer dans les collines à l'est, et l'armée de Maedros se trouva assaillie sur trois fronts, et bientôt elle se débanda et se dispersa, fuyant de toutes parts. Le sort épargna néanmoins les fils de Fëanor, et si tous furent blessés, aucun ne fut tué, car ils se rallièrent, et ils rassemblèrent les débris des Noldor et des Naugrim, et se taillèrent un chemin hors de la bataille, fuyant loin dans l'est, vers le mont Dolmed. De toutes les forces de l'est, les derniers à résister furent les nains de Belégost, qui s'attirèrent par là une grande renommée. Car les Naugrim enduraient vaillamment le feu, plus qu'aucun des elfes ou des hommes. Et ils avaient coutume de porter à la guerre de grands masques effrayants à voir, qui leur rendirent de fiers services contre les dragons. Sans les Naugrim, Glaurung et sa progéniture auraient réduit tout ce qui restait des Noldor à l'état de cendre. Mais les Naugrim s'attroupèrent autour de lui quand il les assaillit. Et même sa formidable armure n'était pas invulnérable aux coups de leur grande hache. Et lorsque dans sa rage, Glaurung se retourna et terrassa Azaghal, seigneur de Belégost, et rampa sur son corps, Azaghal de son dernier coup lui plongea un couteau dans le ventre et il lui infligea une telle blessure qu'il quitta le champ de bataille. Et les créatures d'Angband, atterrées, se hâtèrent après lui. Alors les nains soulevèrent le corps d'Azaghal et l'emportèrent, et à Palan lui firent cortège, chantant un traîne de leur voix profonde, comme à des funérailles en leur pays, sans plus se soucier de leurs adversaires. Et nul n'osa entraver leur marche. Or à présent, du côté ouest de la bataille, Fingon et Turgon étaient submergés par un flot d'ennemis trois fois plus nombreux que toutes les forces qui leur restaient. Gothmog, le seigneur des Balrogs, grand capitaine d'Angband, était du nombre. Sa sombre figure s'enfonça comme un coin entre les armées elfes, cernant le roi Fingon et refoulant Turgon et Urin vers le marais de Selek. Sur quoi il se tourna vers Fingon. Terrible fut leur rencontre. Bientôt Fingon se retrouva seul, sa garde décimée, et il lutta contre Gothmog jusqu'à ce qu'un autre Balrog survint derrière lui et l'enveloppa d'une lanière de feu. Lors, Gothmog abattit sur lui sa hache noire et une flamme blanche jaillit du haume de Fingon lorsqu'il se fendit. Ainsi tomba le grand roi des Noldor, et ils écrasèrent son corps dans la poussière à coups de masse et piétinèrent son étendard bleu et argent dans la fange de son sang. Tout était perdu, mais Urin et War et les débris de la maison de Hador résistait encore avec Turgon de Gondolin. Et pour lors, les armées de Morgoth ne purent gagner la passe du Sirion. Lors, Urin s'adressa à Turgon, disant « Partez, seigneur, pendant qu'il est temps, car c'est en vous que réside le dernier espoir des Eldar, et tant que Gondolin sera debout, Morgoth connaîtra encore la peur. » Mais Turgon répondit « Gondolin ne peut demeurer caché encore longtemps. Et sitôt découverte, elle tombera. » Puis Uor prit la parole et dit, « Si toutefois elle subsiste encore un peu, de votre maison naîtra l'espoir des elfes et des hommes. Ceci vous dis-je, Seigneur, avec la vue d'un mort. bien que nous nous séparions aujourd'hui et pour toujours, et que jamais plus je ne doive contempler vos blanches murailles, de vous et moi surgira une nouvelle étoile. Adieu. » Et Maeglin, fils de sœur de Turgon, qui se tenait là, entendit ces paroles et ne les oublia pas. Mais il se tut. Lors, Turgon suivit le conseil de Urin et War et se retira vers la passe du Sirion, ayant rassemblé ce qui restait de son armée et tous ceux du peuple de Fingon qui se purent rallier. Et ses capitaines Ectelion et Glorfindel gardèrent ses flancs droit et gauche afin qu'ils ne soient doublés par leurs ennemis. Mais les hommes du Dorlemine leur servaient d'arrière-garde, et c'était là le souhait de Urin et War qui, en leur cœur, ne souhaitaient pas quitter les terres du Nord. S'ils ne parvenaient pas à regagner leur foyer, ils entendaient se battre jusqu'à la fin. Ainsi la traîtrise d'Uldor fut réparée, et de tous les faits de guerre qu'ont accomplis les pères des hommes en soutien aux Eldar, la résistance des hommes du Dorlemine demeure le plus illustre. De vive lutte donc, Turgon ménagea sa retraite vers le sud, et il passa derrière la protection de Urin et War et descendit le Sirion, échappant au massacre. Et il disparut dans les montagnes et fut soustrait au regard de Morgoth. Mais les frères prirent ce qui restait des hommes de la maison de Hador, et ils se replièrent pied à pied et se retranchèrent derrière le marais de Selek, devant le cours du Rivil. Là, ils tinrent ferme et ne reculèrent plus. Alors les hordes d'Angband les assaillirent en masse, et ils jetèrent un pont de cadavres sur la rivière et encerclèrent les survivants du Ithlom comme la marée autour d'un rocher. Là, comme le soleil plongeait au déclin du sixième jour et que l'ombre des Ered Wethrin se faisait plus noire, Uor tomba, l'œil percé d'une flèche empoisonnée, et tous les vaillants hommes de Hador tombèrent à ses côtés, l'un sur l'autre. Et les orques leur tranchèrent la tête et les empilèrent comme une montagne d'or dans le soleil couchant. Urin restait debout, le dernier de tous. Alors il laissa choir son bouclier et mania la hache à deux mains. Et la lame fumait au contact du sang noir des trolls de la garde de Gothmog, disent les chants, jusqu'à disparaître. Et à chaque mort, Urin s'écriait « Aure en Tuluva, le jour reviendra !» 70 fois il le cria, mais enfin ils le prirent vivant sur l'ordre de Morgoth, car les orques posaient les mains sur lui et elles restaient agrippées, même quand il leur eut coupé les bras. Et il se renouvelait sans cesse, si bien qu'à la fin, il fut enseveli sous leur nombre. Lors, Gothmog lui passa les fers et le traîna à Angband sous un flot de moqueries. Ainsi finirent les Nirnaeth Arnoediad, tandis que le soleil descendait au-delà de la mer. La nuit tomba sur le Ithlom et un vent de tempête se déchaîna depuis l'ouest. Grand fut le triomphe de Morgoth, et son dessein accompli d'une manière qui plut à son cœur, car des hommes prirent la vie d'autres hommes et trahirent les Eldar, et la peur et la haine s'étaient immiscées entre ceux qui auraient dû s'unir contre lui. Depuis ce jour, les cœurs des elfes se sont détournés des hommes, excepté ceux des trois maisons des Edain. Le royaume de Fingon n'était plus, et les fils de Fëanor erraient comme feuilles au vent. Leurs forces étaient dispersées et leurs alliances rompues, et ils vécurent désormais en sauvages dans la forêt au pied des Ered Lindon, où ils se mêlèrent aux elfes verts de l'Ossiriand, dépouillés de leur gloire et de leur puissance d'antan. À Brethil, quelques-uns des Haladin vivaient encore sous la protection des bois, et Andir, fils de Haldir, était leur chef. Mais aucun ne revint jamais au Ithlom, ni de l'armée de Fingon, ni des hommes de la maison de Hador, et il n'y eut aucune nouvelle de la bataille, ni du sort de leur seigneur et capitaine. Mais Morgoth envoya là-bas les Orientais qu'il avait servis, tout en leur refusant les riches contrées du Beleriand qu'ils convoitaient. Et il les confina au Ithlom, et leur interdit d'en sortir. Telle fut la récompense qu'il leur offrit pour avoir trahi Maedros, pillé et tourmenté les vieillards, les femmes et les enfants du peuple de Hador. Les derniers des Eldar du Ithlom furent emmenés dans les mines du Nord pour y travailler en tant qu'esclaves, sauf quelques-uns qui lui échappèrent et se réfugièrent dans les montagnes et les terres sauvages. Les orques et les loups allaient librement partout dans le nord, et ils descendaient toujours plus au sud en Beleriand, aussi loin que Nantathren, le pays des Saules, et les frontières de l'Ossiriand. Et la lande et le champ n'étaient sûrs pour personne. Le Doriath subsistait, certes, et les halles de Nargothrond demeuraient cachées. Mais Morgoth ne leur prêtait guère attention, soit qu'il n'en sût pas grand-chose, soit que l'heure ne fût pas venue dans les profonds desseins que sa malignité avait conçus. Beaucoup s'enfuirent au Havre et cherchèrent refuge derrière les murs de Círdan, et les marins allaient et venaient le long des côtes et harcelaient l'ennemi lors de rapides descentes. Mais dès l'année suivante, avant la venue de l'hiver, Morgoth envoya une forte troupe par le Hithlum et le Nevrast, et ils descendirent les fleuves Brython et Nenning et ravagèrent tout le Falas, et ils assiégèrent les murs de Brithombar et d'Eglarest. Avec eux, des forgerons, des mineurs et des maîtres du feu s'affairaient à monter de formidables engins. Et malgré une vaillante résistance, ils finirent par abattre les murs. Alors les havres furent dévastés, et la tour de Barad Nimras jetée bas. Et la plupart des gens de Círdan furent tués ou emmenés en esclavage. Mais d'autres s'embarquèrent sur des navires et fuirent par la mer. Parmi eux, Ereinion Gilgalad, le fils de Fingon, que son père avait envoyé au Havre après la Dagor Bragolac. Ils firent voile vers le sud avec Círdan et gagnèrent l'île de Balar, où ils établirent un refuge pour tous ceux qui pouvaient s'y rendre, car ils conservaient une assise aux bouches du Sirion et de nombreuses embarcations rapides et légères cachées dans les anses et les chenaux, parmi une forêt de joncs. Et Turgon, lorsqu'il eut vent de cela, envoya de nouveau ses messagers à l'embouchure du Sirion et sollicita l'aide de Círdan, le charpentier de Nef. À sa demande, Círdan bâtit 7 rapides vaisseaux et ils firent voile dans l'ouest. Mais aucun ne rapporta jamais de ses nouvelles à Balar, sauf un, le dernier. Les marins à bord avaient longtemps bravé les flots avant de faire demi-tour en désespoir de cause, et leur bateau avait sombré dans une violente tempête en vue des côtes de la terre du milieu. Mais Ulmo avait sauvé l'un d'eux de la colère d'Ossé, et les vagues l'avaient soulevé et ramené à terre au Nevrast. Il s'appelait Voronwë, et c'était l'un des messagers dépêchés par Turgon depuis Gondolin. Or, à tout moment, les pensées de Morgoth étaient dirigées vers Turgon, car Turgon lui avait échappé, lui qu'il voulait détruire ou capturer plus que tout autre. Et cette pensée le troublait et gâtait sa victoire, car Turgon de la noble maison de Fingolfin devenait de droit le roi de tous les Noldor. Et Morgoth craignait et haïssait cette maison, car elle jouissait de l'amitié d'Ulmo, son ennemi juré, et il se rappelait les blessures que l'épée de Fingolfin lui avait infligées. Et plus qu'aucun autre de sa maison, Morgoth craignait Turgon, car autrefois, en Valinor, son œil s'était arrêté sur lui, et une ombre troublait son esprit chaque fois qu'il le rencontrait, présageant que, dans un avenir encore caché, de Turgon viendrait sa propre ruine. Urin fut donc emmené devant Morgoth, car Morgoth savait qu'il avait l'amitié du roi de Gondolin. Mais Urin brava Morgoth et le nargua. Lors, Morgoth maudit Urin et Morwen et toute leur descendance, les vouant au malheur et aux ténèbres. Et sortant Urin de sa prison, il l'installa sur un siège de pierre, sur les hauteurs du Tangorodrim. Urin y demeura, contraint par le pouvoir de Morgoth. Et Morgoth, debout à ses côtés, le maudit encore, et il dit « Reste là assis, et contemple les terres où malheur et désespoir viendront à tous ceux que tu aimes. Tu as osé me narguer et défier la puissance de Melkor, maître des destinées d'Arda. Ainsi, tu verras de mes yeux et entendras de mes oreilles, et jamais tu ne bougeras de cet endroit, que tout soit joué jusqu'au terrible dénouement. » Et c'est ainsi que cela se passa. Mais il n'est pas dit que Urin implora jamais la grâce ou la mort pour lui-même ou pour aucun de ses enfants. Sur l'ordre de Morgoth, à grand-peine, les orques rassemblèrent les corps de tous ceux qui étaient tombés lors de la grande bataille et toutes leurs armes et leurs armures. Et ils les réunirent en un immense tas au milieu d'Anfauglith, comme une colline que l'on voyait de loin. Les elfes l'appelèrent Aud en Degin, la colline des tués, et Aund en Ninnaeth, la colline des larmes. Mais l'herbe poussa de nouveau, longue et verte, et poussa sur cette seule colline dans tous les déserts créés par Morgoth. Et nulle créature de Morgoth ne mit plus les pieds sur ce tertre où les épées des Eldar et des Edain tombaient en poussière.